Accent d'Europe, Juliette Garbrand, Anne Cantner.
Bienvenue à toutes et à tous. C'est un récit difficile que nous allons entendre, celui d'une traversée mortelle de la Méditerranée. Plus de 8600 migrants sont arrivés en Italie par la mer depuis le début de l'année. Les gardes-côtes italiens sont sur le pont et les navires humanitaires aussi, malgré les restrictions imposées par le gouvernement de Giorgia Meloni.
Hier, jeudi, le navire d'Emergency a secouru 71 personnes avant d'être dirigé vers Ravenne, dans le nord du pays. La veille, la Géo-Barents de Médecins Sans Frontières avait débarqué 249 personnes en Toscane. Et en début de semaine, c'est l'Ocean Viking qui amarrait à Ancône.
L'ONG SOS Méditerranée venait d'assurer 4 sauvetages successifs, dont l'un particulièrement tragique. Au moins 60 personnes étaient mortes au cours du voyage de l'embarcation. Notre correspondante, Cécile Debarge, a demandé aux équipes de retracer ce qui s'était passé.
Il n'est pas encore tout à fait midi ce 13 mars. L'Ocean Viking met le cap sur un bateau en bois qui lui a été signalé. La mer est plutôt calme dans ce tronçon de Méditerranée centrale, à peine une houle. Sur le pont, les sauveteurs se relaient aux jumelles pour scruter l'horizon. À une quinzaine de kilomètres, au loin, un petit point apparaît, mais rien à voir avec le bateau de bois qu'ils devaient secourir. Jérôme est le responsable de l'équipe SAR, recherche et sauvetage du bateau.
C'est douteux parce que c'est un gros bateau pneumatique, mais il n'y a pas de monde. Au début, on voyait 2-3 personnes et je regarde dans les jumelles. Et il y a quelque chose qui cloche, ils ne sont pas nombreux là-dedans. Par rapport à la taille, il devrait y avoir une centaine de personnes en général sur ces trucs-là. C'est 100 personnes, c'est pas 15.
À toutes les équipes, préparez-vous pour un sauvetage. Les mots de Jérôme résonnent à bord, les sauveteurs se préparent. En quelques minutes, 3 semi-rigides sont mis à l'eau. À mesure qu'ils s'approchent, ils distinguent des hommes qui agitent leur t-shirt pour leur faire signe. Les sauveteurs arrivent enfin.
Les gens sont tous silencieux, sont hagards. On comprend vite que ça fait longtemps qu'ils sont exposés à l'eau de mer, au sel, au dessèchement. Et une des personnes avait 2 rivières marquées sous les yeux de larmes, sans pour autant crier, sans bouger, sans rien. Tous, ils ont des regards vides de terreur, de folie.
Jérôme décrit une scène d'apocalypse. Certains sont nus, pantalons aux chevilles. 2 personnes sont inanimées, étendues sur les plaques de coffrage boulonnées à la va-vite au fond du canot pneumatique.
En ramenant tout le monde vers l'océan Viking, on commence à leur demander « Est-ce qu'il y a d'autres personnes ?» Et là, l'un d'eux qui était complètement exalté, répété en boucle, on est parti depuis une semaine. D'autres nous précisent « On est parti, on était une centaine ». Et c'est là qu'on comprend que parmi la centaine, il en manque une soixantaine, 80. Ils nous disent qu'ils sont tous morts un par un, lentement, de faim, de soif. Et que un par un, ils ont été obligés de les jeter par-dessus bord.
Sur le pont de l'Ocean Viking, Anne, médecin, reçoit les premières informations. Les rescapés sont particulièrement affaiblis, déshydratés, brûlés par le mélange d'essence et d'eau de mer, et tous en état d'hypothermie. La petite clinique, qui accueille habituellement 2 à 3 patients, ne suffira pas. L'équipe médicale installe oxygène, perfusion, couverture de survie dans ce qui sert d'habitude d'espace réservé aux femmes. Les rescapés sont hissés à bord, plus aucun d'eux n'a la force de marcher.
Les premiers étaient totalement crispés, mais je pense que c'était lié au fait qu'ils ont bu de l'eau de mer beaucoup pendant le temps où ils ne pouvaient pas boire, ce qui fait qu'ils avaient des espèces de spasmes de tout leur corps et il fallait réussir à les maintenir dans une position où ils puissent quand même respirer, où on puisse surveiller leur respiration, ils étaient inconscients.
Immédiatement, les médecins demandent leur évacuation. Une heure plus tard, ils sont emmenés par hélicoptère vers les hôpitaux d'Agrigente et de Palerme. L'un d'eux meurt peu après, les autres sont pris en charge à bord.
Quand ils ont émergé, on s'est rendu compte qu'ils étaient dans un état psychologique catastrophique. Au début, j'ai pensé que c'était une incohérence, une confusion due à leur état physique. Je me suis rendu compte assez vite que c'était beaucoup plus que ça, enfin que c'était plus profond que ça.
De la centaine de passagers du canot, 24 ont survécu. 24 hommes originaires du Sénégal, de Gambie et du Mali. Près de la moitié sont des mineurs isolés, le plus jeune à 12 ans.
Quand il se réveillait, c'était très étonnant parce qu'il avait un grand sourire et il demandait de l'eau, il demandait à manger. Dès qu'il prenait, il revomissait tout, mais il en redemandait encore, toujours en souriant. Et en nous parlant de sa sœur, qui était avec lui, et avec un grand sourire. Et sur le moment, comme moi, je n'avais pas vu qui arrivait sur le pont, je ne savais pas si elle était là, sa sœur, ou pas. Je ne savais pas qu'il n'y avait que des hommes.
Un homme raconte avoir dû jeter sa femme et sa fille d'un an par-dessus bord. Un mineur que ses deux parents ont été jetés à la mer. Après les premiers soins, les rescapés s'écroulent de fatigue. Certains dorment 24 heures d'affilée. Ils racontent ensuite leurs signaux de détresse ignorés, les hélicoptères qui ont survolé leur canot sans jamais intervenir, jusqu'à ce que, par hasard, donc, l'équipe de SOS Méditerranée les repère aux jumelles.
L'Europe, à mon sens, par son inaction, par sa volonté d'ignorer les détresses en mer, continue à condamner à mort les personnes qui continuent à penser que l'Europe est une terre d'accueil. On ne sait même pas combien ils sont à avoir appelé à l'aide, à jamais avoir reçu d'assistance, à avoir jamais été aidé. On ne saura jamais combien ils sont.
L'équipe de l'Ocean Viking, elle, enchaîne trois autres sauvetages compliqués. Après avoir secouru 361 personnes, le navire doit mettre le cap sur Ancône, à trois jours de navigation. Pourtant, l'équipe demande un port plus proche en raison de l'état de santé des rescapés. Les autorités italiennes finiront par accepter le transbordement au large de Catane, mais uniquement pour les 23 survivants du naufrage, de nuit et en pleine mer, sans même faire amarrer l'Ocean Viking au port.
Les dirigeants européens sont réunis à Bruxelles. Ils doivent se mettre d'accord pour augmenter le financement de l'aide militaire à l'Ukraine, alors que les pays du flanc est de l'Union redoute d'être la prochaine cible d'une attaque de la Russie de Vladimir Poutine et notamment la Pologne, Juliette.
Depuis le début de l'agression de l'Ukraine frontalière, les dirigeants polonais affichent en effet un de leur volonté de créer l'armée la plus puissante d'Europe. Et de fait, la population répond présent. Les centres de recrutement du pays ne désemplissent pas. Notre correspondant Adrien Sarla a visité celui du quartier de Praga à Varsovie. Reportage.
Pan Bilic Tomasz.
C'est la dernière étape avant la validation de leur candidature. Dans la salle d'examen du centre de recrutement de Varsovie, le stress se lit sur les visages. S'ils réussissent les tests psychologiques, les six candidats pourront intégrer l'armée dans les prochaines semaines.
Les tests sont divisés en plusieurs parties. D'abord, on vous fait passer un test de personnalité, et cette partie durera environ une heure. Puis on testera votre logique, et après ça, vous me suivrez au deuxième étage, où vous attendent des tests psychomoteurs et des entretiens individuels.
Penché sur sa feuille, Edward, 22 ans, est concentré. Comme beaucoup de ses amis, il espère pouvoir intégrer les troupes de défense territoriale en mai prochain, sans pour autant interrompre ses études de physiothérapie.
J'ai commencé mes études à Varsovie en octobre dernier, et les amis que j'ai rencontrés là-bas m'ont dit qu'ils servaient aussi dans la défense territoriale. Ça m'a rappelé l'existence de cette formation. J'ai réfléchi un peu, et c'est ça qui m'a fait m'engager.
Un service militaire atypique, puisqu'il permet de combiner une formation militaire et des études ou un emploi dans le civil. Les forces de défense territoriale sont en moyen d'intégrer l'armée de façon ponctuelle. Après 16 jours de formation, les recrues sont appelées à servir un week-end par mois seulement.
Je candidate principalement pour des raisons économiques et financières, car l'armée polonaise permet aux jeunes de combiner études et travail.
Un niveau de rémunération que l'armée a voulu attractif, 6 000 zloty, soit 1 400 euros dès le premier jour de service militaire, c'est 500 euros de plus qu'avant le début de la guerre en Ukraine. Alors forcément, la formule attire les jeunes, mais pas seulement. Dans le couloir, Sylvia jette un œil aux brochures militaires. À 39 ans, elle vient de déposer son dossier pour rejoindre elle aussi les forces de défense territoriale, sans pour autant renoncer à son métier dans le domaine médical.
On a cette possibilité de combiner les deux mondes ensemble. On peut rester employé dans son corps de métier et être un soldat, enfin, disons un soldat du dimanche, mais on a toujours davantage de connaissances de ce qu'est le service militaire que quelqu'un qui n'a jamais eu affaire à l'armée.
Une expérience qu'elle juge nécessaire d'acquérir, alors que la menace russe se fait de plus en plus pesante en Pologne.
On vit sous la menace très présente d'une guerre, une menace bien plus grande qu'il y a 2 ans. Peut-être que les Français ne le ressentent pas autant car ils sont plus loin de tout ce qui se passe ici, mais il me semble que le conflit peut très rapidement s'étendre à d'autres pays.
C'est justement en réaction à la guerre qu'en mars 2022, le Parlement a voté la loi pour la défense de la patrie. Depuis, l'État consacre au moins 3% du PIB à la défense et le processus de recrutement militaire a été facilité. Le sous-lieutenant Wobodowski, lui, a constaté les effets de cette nouvelle législation sur le nombre de nouvelles recrues.
On a été très positivement surpris par la réponse de la société au début de la guerre et par le grand nombre de candidats qui sont venus tous les jours pour postuler à des formations militaires, principalement pour rejoindre les troupes de défense territoriale. Nous recevions au moins 30 candidatures par jour. Aujourd'hui, l'intérêt pour l'armée reste élevé et je pense que cela n'est pas près de retomber.
Chaque jour, ce sont 10 à 20 personnes qui poussent les portes de son centre de recrutement pour venir postuler ou se renseigner sur les différents types de services militaires. Mais Grzegorz, lui, ne souhaite pas se limiter au week-end. Cet ingénieur en contrôle qualité dans une entreprise de soudure a décidé de changer de vie pour intégrer l'armée professionnelle à plein temps. À 41 ans, il a décidé de donner à sa vie un nouveau tournant, un parcours de plus en plus courant, alors que les programmes de formation accélérés pour intégrer les rangs de l'armée se multiplient.
J'espère que je n'aurai jamais à mettre en pratique les compétences que j'ai apprises en formation et que je continuerai d'acquérir en rejoignant l'armée. Mais si ça devait être le cas, je préférerais être prêt.
Comme lui, ils sont plusieurs milliers à avoir rejoint l'armée après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le gouvernement a annoncé vouloir doubler ses effectifs d'ici 2035 avec un chiffre cible, constituer une armée de 300 000 hommes.
Au sein de l'OTAN, la Turquie est une force majeure en termes de moyens. Le service militaire est obligatoire dans le pays, il ne fait pas l'unanimité, mais pour ceux qui refusent de s'engager sous les drapeaux, la loi ne prévoit aucune disposition.
Et le 12 mars dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Turquie pour violation de l'article 9 de la Convention qui garantit notamment la liberté de conscience. Ceux qui refusent la conscription risquent en effet une condamnation en justice, à moins qu'ils ne choisissent de payer pour y échapper. Les explications à Istanbul d'Anne Andlauer.
La Turquie se vante souvent de posséder la deuxième plus grande armée de l'OTAN en termes d'effectifs. Ce dont elle se vante moins, c'est de compter aussi une grande armée de déserteurs qui fuient le service militaire, obligatoire pour tous les hommes dès l'âge de 21 ans. En 2022, selon des chiffres parus dans la presse, les fugitifs au regard de la loi étaient 550 000, c'est-à-dire plus nombreux que les soldats recensés à l'époque dans les forces armées turques, soit 391 000. Dans un pays qui proclame encore que chaque Turc naît soldat, ne pas accomplir son devoir militaire reste un tabou, et ceux qui le crient en place publique, les objecteurs de conscience, restent une ultra-minorité de quelques centaines d'hommes. Jusqu'à une loi de 2011, les Turcs qui ne respectaient pas la conscription obligatoire risquaient jusqu'à 3 ans de prison. Désormais, ils sont passibles d'une amende calculée au prorata du nombre de jours d'absence de la caserne. Pragmatique face aux désertions massives et en manque de financement, le gouvernement a décidé il y a 5 ans de pérenniser un système jusqu'ici ponctuel qui permet aux Turcs de payer pour être exemptés de services militaires. 5200 euros actuellement, soit plus de 10 fois le salaire minimum. Comme tout le monde n'a pas les moyens de débourser cette somme, un grand nombre de jeunes hommes turcs continuent d'être officiellement considérés comme des déserteurs. Pour l'instant, les autorités turques n'ont pas pour projet d'abolir le service obligatoire et de passer à une armée à 100% professionnelle. Mais dans les faits, l'armée turque l'est de plus en plus. En 2022, le nombre de militaires professionnels a dépassé pour la première fois celui des conscrits.
Accent d'Europe, en Scandinavie, en Suède précisément, où la politique sociale, longtemps érigée en modèle en Europe, est en recul et dans tous les domaines.
Dont le domaine de l'éducation, Anne. En 1990, il n'existait dans le pays qu'une poignée d'écoles privées. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses. Et la privatisation de l'éducation suédoise, des crèches jusqu'au lycée, a fait émerger de grands groupes cotés en bourse. Or, ces groupes privés, Carlotta Morteo nous l'explique, sont totalement financés par de l'argent public.
Voilà, en fait, toutes les écoles, qu'elles soient publiques ou privées, touchent la même dotation par élève. Elles sont gratuites pour les familles qui, en clair, reçoivent un chèque éducation à dépenser dans l'école de leur choix. Ce système a fait fleurir toute une offre d'écoles aux pédagogies plus ou moins créatives, avec plus ou moins d'heures d'anglais, de sport, de matières technologiques, etc. L'idée étant d'offrir une école plus à la carte. Donc ça a commencé dans les années 90, au moment de la Friske Reform, la réforme des écoles libres, et Depuis, ce système a fait émerger de très grands groupes privés. L'éducation est devenue un business, puisque ces établissements peuvent faire des marges sur l'argent public qui leur est donné et reverser les profits à leurs actionnaires. Certains sont d'ailleurs en quelques années devenus des millionnaires. Pour vous donner une idée, le leader du marché compte 38 écoles et 125 maternelles dans le pays.
Ce système, Carlotta, a généré en fait de la ségrégation scolaire et il fait même office de contre-modèle.
Oui, c'est-à-dire que la concurrence est devenue tellement féroce entre ces établissements pour attirer les meilleurs élèves, les moins problématiques, que tous les ans, à la télé, dans les boîtes aux lettres, sur les panneaux d'affichage, de grandes campagnes de pub sont menées pour tenter de séduire les parents. Les écoles font ensuite leur choix sur dossier, il y a des listes d'attente et les écoles privées n'ont pas l'obligation d'accepter des élèves étrangers, par exemple, comme c'est le cas des écoles publiques. Donc non seulement cette sélection est synonyme de profit pour les établissements privés, puisque les bons élèves ont besoin de moins d'accompagnement, mais de plus en plus de Suédois de classe moyenne fuient les établissements publics où se trouve une plus grande concentration d'élèves en difficulté et d'enfants d'immigrés aussi. Donc en clair, la privatisation des écoles a renforcé la ségrégation résidentielle qui existait déjà par ailleurs.
Est-ce que les Suédois remettent en cause ce système aujourd'hui ?
Oui, de plus en plus, notamment parce que les scandales se multiplient avec des histoires d'écoles en faillite qui laissent du jour au lendemain des milliers d'élèves et d'enseignants sur le carreau, avec des défaillances dans la qualité de l'enseignement. La course au profit, ça génère par endroits des classes avec trop d'élèves par rapport à l'encadrement. Et par ailleurs, un phénomène de notes gonflées, c'est-à-dire que pour satisfaire des familles considérées comme de la clientèle, les directeurs d'établissement poussent les profs à bien noter leurs élèves. Tant et si bien que la prestigieuse université d'économie de Stockholm a décidé cette année d'instaurer un concours à l'entrée plutôt que de sélectionner les élèves sur dossier, puisqu'elle a constaté que leur niveau ne correspondait pas à ce qui était affiché dans les bulletins. Donc on voit que ça va assez loin. Mais c'est très difficile de revenir en arrière maintenant sur ce système. Et surtout, le gouvernement de droite ne conteste pas l'idée que l'éducation puisse servir à faire des profits.
Merci Carlotta Morteo, correspondante en Suède.
Écoute ce disque. Écoute ce disque.
Et on retrouve la chronique musicale de Vincent Théval. Cette semaine, une rencontre entre la Suisse et l'Algérie.
Le producteur et DJ suisse Dominique Traub, alias Dandara, s'est d'abord fait connaître en invitant le monde entier dans ses mix et les nombreux maxis qu'il a publiés depuis 2016. Mélange de rythmes électroniques européens et de sons puisés en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Son premier album paraît aujourd'hui et il est le fruit d'une rencontre avec le chanteur et multi-instrumentiste algérien Shakib Bouzidi. Les deux musiciens se croisent lors d'un festival à Bâle et se lancent bientôt dans des sessions d'enregistrement entre la Suisse et l'Algérie. L'album prend forme, mais Shakib Bouzidi tombe gravement malade et meurt des suites d'un cancer. Après une période de deuil et de réflexion, Dandara a terminé l'album en utilisant les sons que son ami lui avait laissés. Le résultat est vibrant de vie et d'humanité.
Dobra, un titre de l'artiste suisse Dandara avec Shakib Bouzidi dans Accent d'Europe. C'était le choix de Vincent Théval à la réalisation d'Accent d'Europe, Françoise Grelot. Restez avec nous sur RFI dans quelques secondes, la suite de l'actualité.